VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Actualité américaine tout d'abord. Ici à Washington, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a déclaré lundi qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'autoriser la tenue d'un procès si la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, venait à voter l'impeachment, c'est-à-dire la mise en accusation du président Donald Trump. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Cette déclaration tend à repousser les spéculations selon lesquelles Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, compte user de sa position pour faire dérailler la procédure de destitution engagée en septembre par les démocrates en tentant d'empêcher le cas échéant la tenue d'un procès au Sénat. « Je n'aurai pas d'autre choix, les règlements du Sénat sont très clairs », a-t-il dit à la chaîne de télévision CNBC. M. McConnell a fait cette annonce alors que trois commissions de la Chambre des représentants ont sommé lundi Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président américain, de transmettre des documents liés aux pressions exercées sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il ouvre une enquête contre Joe Biden. Le président Trump, pour sa part, a passé une grande partie de la journée de lundi à diriger sa colère contre le président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, demandant sur Twitter que celui-ci soit arrêté pour trahison.
Actualité américaine toujours, Washington a confirmé ce mardi la reprise imminente des pourparlers sur le nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. La porte-parole du département d'État américain, Morgan Ortagus, a précisé aujourd'hui que des responsables américains et nord-coréens allaient se rencontrer au cours de la semaine qui vient. Elle n'a pas donné d'autres détails sur la réunion. Pour sa part, Pyongyang avait annoncé plus tôt dans la journée que la Corée du Nord aurait samedi des discussions de travail sur le nucléaire avec les États-Unis, relançant les efforts diplomatiques 8 mois après l'échec du sommet de Hanoï. Les deux parties ont accepté d'avoir des contacts préliminaires le 4 octobre et des discussions de travail le lendemain, a souligné le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Choi Son-hui, dans un communiqué diffusé par l'agence officielle de presse de la Corée du Nord. La lutte contre les djihadistes dans la Corne de l'Afrique maintenant. En Somalie, l'armée américaine a lancé 2 attaques de drones, tuant 10 islamistes Shebab et détruisant un véhicule. Réaction du Pentagone à une incursion audacieuse visant une base américaine lundi au nord-ouest de Mogadiscio, la capitale. Le point avec Abdourahman Dia.
La base de Balédoglé est ce que l'armée américaine appelle une installation de contingence où les équipes des forces spéciales entreposent leur armement et leur équipement. Elle est utilisée par l'armée américaine pour ses frappes aériennes à l'aide de drones contre les Shebab ou contre des membres du groupe État islamique en Somalie. Le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, précise que l'attaque des Shebab a été menée avec l'aide d'une voiture piégée. Cette attaque, bien qu'inefficace, démontre à quel point les Shebab représentent une menace directe pour les Américains, pour nos alliés et nos intérêts dans la région, a commenté le général William Gayle, le chef des opérations de l'AFRICOM. De fortes explosions, suivies par des échanges de coups de feu, ont été entendues sur la base de Balédoglé, une installation qui dépend officiellement de l'armée nationale somalienne. Les Shebab ont affirmé avoir fait 10 morts. Ce bilan a été fermement démenti par l'armée somalienne.
Somalie toujours, Amnesty International a accusé les États-Unis ce mardi d'avoir tué 3 civils dans une frappe aérienne contre une voiture en Somalie en mars et de ne pas avoir enquêté au sujet d'informations selon lesquelles il s'agissait d'agriculteurs sans lien avec les insurgés islamistes Shebab. L'ONG de défense des droits humains basée à Londres précise que son enquête a révélé que les 3 hommes tués le 18 mars dans le sud de la Somalie étaient des civils innocents et non des djihadistes comme l'a affirmé le commandement militaire américain pour l'Afrique. Mais le porte-parole de l'AFRICOM, John Manley, rejette les allégations d'Amnesty. John Manley souligne que sur la base de rapports des services de renseignement, le commandement militaire américain pour l'Afrique est raisonnablement certain que la voiture visée et ses occupants appartenaient aux Shebab et soutenaient directement leurs activités opérationnelles.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie du Burundi, Ezekiel Nibigira, a mis en garde l'ONU contre toute velléité d'intervenir dans l'élection présidentielle de 2020 dans son pays, ce qui serait considéré par Bujumbura, selon le chef de la diplomatie burundaise, comme une atteinte à sa souveraineté. Le point avec Eddy Sango.
Ezekiel Nibigira, devant l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré que le processus électoral est une affaire interne et qu'un accompagnement international ne doit pas donner droit à des actes d'interférence. Il a ajouté que toute tentative de vouloir créer un nouveau rôle pour s'occuper des élections à la place des Burundais serait une atteinte à la souveraineté nationale. Il a réclamé à nouveau le retrait de son pays du programme du Conseil de sécurité, car selon lui, le maintien de son pays à ces programmes est dû à des raisons politiques et des intérêts extérieurs qu'il n'a pas spécifiés. L'élection présidentielle, celle des députés et des conseils municipaux du Burundi, se tiendra le 20 mai 2020. Au pouvoir depuis 2005, le président Pierre Nkurunziza a annoncé à la surprise générale qu'il n'allait pas se représenter alors que la nouvelle constitution de 2018 le lui permet.
Toujours concernant la région des Grands Lacs d'Afrique, en Ouganda, interdiction pour les civils de porter un béret rouge. C'est ce qu'a décidé le gouvernement en soulignant qu'il s'agit d'un accessoire militaire officiel. L'opposant Bobi Wine et ses partisans utilisent le béret rouge comme symbole de la résistance au régime du président Yoweri Museveni. Plus de détails avec Eric Maniakiza.
Le gouvernement a publié ce lundi une liste de vêtements et accessoires militaires dont le béret rouge, soulignant que leur possession par des civils est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Le code vestimentaire des forces de défense du peuple ougandais a été inscrit dans la loi. C'est félicité le général Richard Karemire, porte-parole de l'armée, précisant que cette loi est le fruit d'un processus lancé plusieurs années auparavant. En déplacement à l'étranger, l'opposant Bobi Wine, qui a fait du béret rouge un symbole de résistance, n'a pas réagi à cette annonce, mais Ivan Boué, un responsable de son mouvement, a affirmé qu'ils vont continuer de porter le béret. Selon lui, le gouvernement tente d'interdire le mouvement pouvoir du peuple, mais qu'ils seront prêts à faire face à n'importe quelle action du gouvernement. Le député Bobi Wine, Robert Yagulani, de son vrai nom, est chanteur de profession. Il est devenu l'un des opposants les plus critiques du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Il a été arrêté plusieurs fois et les autorités l'ont empêché à plusieurs reprises de se produire en public. Bobi Wine a annoncé fin juillet sa candidature à la présidentielle de 2021.
Afrique centrale maintenant, en République centrafricaine, grande marche à Bangui de la plateforme citoyenne Ezingo Biani. Plusieurs centaines de personnes, 2000 selon les organisateurs, se sont mobilisées lundi sur l'avenue Barthélémy Boganda. Les manifestants ont remis à la fin de la marche un mémorandum de sortie de crise aux autorités centrafricaines et à la communauté internationale. De Bangui, le compte-rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Malgré des appels au boycott lancés dans plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine, le mouvement Ezingo Biani réussit à mobiliser plusieurs centaines de personnes dans la rue. Gervais Lakosso, coordonnateur de ce mouvement qui regroupe la société civile et les partis politiques de l'opposition.
Il devrait avoir au moins 4 fois plus de personnes que cela, mais les gens ont manqué de courage. Vous avez vu, on s'approche de 2000 personnes qui se sont mobilisées pour cette marche. Et ça veut dire que les centrafricains savent braver les menaces, les intimidations politiques.
Encadré par des forces de l'ordre et les blindés de la MINUSCA, l'itinéraire initialement prévu n'est pas respecté. Gervais Lakosso.
Le ministre de la Sécurité publique a fait une sorte de demi-volte-face. L'absence du chef de l'État au pays n'est pas une raison pour changer l'itinéraire. Il ne connaît pas l'administration mieux que nous. Donc, le chef d'État n'est pas là, il a des collaborateurs.
Un mémorandum dit de sortie de crise est remis aux autorités centrafricaines et à la communauté internationale. Le mouvement Ezingo Biani revendique du gouvernement 12 choses, entre autres la mise en place d'un processus sérieux de désarmement, l'abrogation du décret nommant les chefs de groupes armés à des postes de responsabilité de l'État et le démantèlement de toutes les barrières illégales dans le pays. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Et pour terminer, deuxième jour du dialogue national au Cameroun, politiques, religieux, chefs traditionnels et des jeunes combattants présentés comme des repentis ont plaidé pour l'appel lundi à l'ouverture du grand dialogue national sur le conflit séparatiste meurtrier au Cameroun anglophone. Un dialogue qui est censé durer du 30 septembre au 4 octobre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.